L'agriculture urbaine pourrait-elle nourrir le monde? Un article que vous avez déniché dans The Guardian. Vous l'avez donc traduit?
Oui, en fait, c'est vraiment pas moi qui l'ai traduit, c'est l'intelligence artificielle.
Ah oui, c'est vrai,
Google.
Ça existe, ça, pour rendre ce genre de service.
Mais évidemment, j'ai quand même vérifié que l'information était fidèle au texte original. Donc, c'est ça, c'est un titre, un article que j'ai trouvé sur le Guardian. Et on commence par nous dire que la population mondiale s'élevait à 4,6 milliards d'habitants en 1982, mais d'ici 2050, elle aura plus que doublé. Et ça commence à devenir difficile de penser qu'on va pouvoir nourrir tout ce monde-là. Il y a déjà 2,3 milliards de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire aujourd'hui. Il y a toutes sortes de choses comme la COVID-19 et les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont révélé la fragilité de notre système alimentaire. Et donc, c'est de plus en plus, on a envie de se tourner vers l'agriculture urbaine. D'ailleurs, la pandémie de 2019 a engendré un bref essor de cette agriculture urbaine. Il y a 8,37 milliards de dollars canadiens qui ont été investis dans les start-up d'agriculture verticale en 2021. Il y en a plusieurs, évidemment, qui ont fait faillite à la suite du confinement, mais... Il y a quand même plusieurs qui ont continué et l'idée elle-même persiste. En janvier, le gouvernement écossais, par exemple, a inauguré un nouveau centre d'innovation pour l'agriculture verticale qui est doté d'un budget de 3,35 millions de dollars canadiens. Il y a des fermes qui ont vu le jour dans des conteneurs maritimes à Brooklyn, dans des parkings souterrains à Paris, des abris anti-bombes qui datent de la Seconde Guerre mondiale à Londres et sur des toits de Hong Kong à Singapour, en passant bien sûr par Montréal. Et on nous dit que l'agriculture urbaine produit déjà entre 5 et 10% des légumineuses, légumes et tubercules mondiaux. Donc c'est quand même, c'est pas tant que ça, 10%, mais c'est quand même une bonne part. Et on nous dit que cultiver les terres en ville, ça améliorerait l'alimentation dans les pays du Nord et ça fournirait davantage de calories aux pays du Sud. Il y a une étude de 2025, donc vraiment récente, qui suggère que l'agriculture urbaine pourrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030 concernant la faim, les villes durables et la consommation responsable. Donc oui, on parle de nous nourrir, mais aussi de comment ça pourrait nous aider à nous nourrir de façon plus durable et responsable. Ça permettrait aussi de réduire les chaînes d'approvisionnement vulnérables et bien sûr les émissions de carbone qui sont liées au transport et à l'emballage des aliments frais. Il y a une étude un petit peu plus vieille de 2013 qui avait révélé qu'un kilo d'aliments cultivés à Londres produisait en moyenne 2,23 kilos de CO2 de moins que l'agriculture conventionnelle. Donc, évidemment, là, si on prend en compte non pas juste la façon dont c'est cultivé, mais le transport, etc., tout ce qui était impliqué dans cultiver quelque chose puis l'apporter à la personne qui va le manger à la fin. Et en plus de ça, cultiver la terre, c'est une activité profondément humaine. Donc, devenir à la fois producteur et consommateur, ça permettrait aux communautés de se développer et aux individus de s'épanouir. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse rapide, mais importante, parce que ça me fait penser vraiment à une initiative que je connais dans le sud de la France, à Saint-Clément-des-Rivières. Personne ne sait c'est où, là, mais c'est pas trop loin de Montpellier. C'est une personne que j'ai connue dans le cadre de mon un travail bénévole que je fais avec une application d'horticulture. C'est un maraîcher français qui a débuté une initiative, ça s'appelle l'Épicentre. Et entre autres activités, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont obtenu de la ville, de la commune française, d'avoir accès à un terrain et ils ont commencé à cultiver ce terrain-là et rassembler toutes les personnes de l'endroit qui avaient envie de participer. C'est devenu vraiment un espace communautaire, donc où on cultive ensemble, on récolte ensemble, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, dernièrement, ils parlaient de à quel point ils ont commencé leur première récolte là, cette année.
Qu'est-ce qu'ils cultivent?
Ils cultivent vraiment de tout, des courges, des piments, de la laitue, du chou, tout ce qui se mange finalement.
Et il y a combien de personnes qui vivent à Saint-Clément-des-Rivières?
Hey, c'est vraiment une super bonne question. J'ai pas pensé de vérifier. C'est une petite commune, mais quand même assez importante là, pour avoir ce gros terrain-là qui est fourni par la mairie.
En tout cas, c'est un beau projet à imiter, hein, Isabelle?
Il parle de familles qui ont récolté 400 kilos de légumes qu'elles ont plantés elles-mêmes.
Ah oui.
Donc, il nous parle de la dimension cognitive, de découvrir qu'on est capable, si on, au début, il y en a plusieurs qui ne pensaient pas qu'elle allait pouvoir le faire. La dimension sociale, parce qu'on apprend ensemble. On
L'union fait la force.
L'union fait la force. La dimension sociétale, ça rompt l'isolement. La dimension communautaire, parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas pu penser nécessairement rencontrer, des retraités, familles, nouveaux arrivants, travailleurs, etc., se rassemblent ensemble. Et évidemment, à la fin, on obtient quelque chose qui va nous aider à nous nourrir. Donc, ça a vraiment plein de bonnes choses, l'agriculture. Là, c'est urbain, semi-urbain, on va dire, mais c'est un bel exemple, je trouve. Et donc, évidemment, là, c'est pas si utopique que ça. C'est quand même important de reconnaître que l'agriculture urbaine, c'est pas une solution miracle. Si on fait de l'agriculture à plein air à proximité des routes, ça peut produire des polluants dans la chaîne alimentaire. Tandis que quand on cultive en intérieur, ben là, à ce moment-là, c'est extrêmement énergivore. Donc, il y a toujours des points négatifs de chaque aspect. On nous dit qu'une ferme verticale qui occupe un immeuble de 30 étages sur une surface de 2 hectares pourrait produire un rendement équivalent à celui de 971 hectares. Donc, c'est quand même important, là. Ça prend beaucoup moins de place si on cultive de façon verticale.
Mais quand vous dites une ferme verticale, ça veut dire quoi exactement?
Quand on fait de l'hydroponie, donc on cultive vers le haut plutôt que vers...
On s'étend moins.
Il y a plusieurs techniques, mais par exemple, si vous allez voir dans une serre, il y a beaucoup d'installations qui sont faites pour que les légumes puissent pousser en hauteur.
Ouais.
Mais évidemment, ça prend beaucoup d'aspects techniques, là, parce que l'alimentation du sol se fait... En fait, des fois, il n'y a pas de sol carrément quand on parle de serre.
J'ai demandé à IIA, Isabelle, et on dit qu'une ferme verticale cultive des aliments en couches superposées à l'intérieur d'une structure fermée et contrôlée comme un gratte-ciel ou un bâtiment.
Voilà. Bien, merci beaucoup.
Merci, IIA.
Oui, merci, IIA. Les fermes hydroponiques verticales sont énergivores, mais ça convient, par exemple, dans des pays du Golfe où 85% des aliments sont importés et où l'eau douce est rare. Et par contre, l'accès aux énergies renouvelables est abondant. Ailleurs, une agriculture à faible impact en périphérie urbaine, même si elle est moins productive, serait plus appropriée. Donc, il faut quand même s'adapter à chaque milieu. On ne parle à Édimbourg, à moins d'un kilomètre de chez l'auteur de l'article. Il y a une ferme qui est une coopérative agroécologique qui a transformé 40 hectares d'anciens pâturages à moutons en périphérie de la ville, en un espace dynamique qui mélange maraîchage, jardins familiaux, agroforesterie. Donc, on associe les cultures aux arbres pour améliorer les sols et les rendements. Donc, il y a des vergers aussi, des zones humides, une prairie restaurée. C'est un des espaces les plus discrètement novateurs de la ville. Évidemment, cette ferme-là ne peut pas nourrir à elle seule la ville, mais la somme de petits gestes, bien, ça peut produire des résultats remarquables. À l'échelle mondiale, les petits agriculteurs produisent environ entre un tiers et la moitié des calories consommées. Et ça, c'est sans recourir aux pratiques néfastes à rendements maximaux de l'agriculture industrielle. Quand on cultive à petite échelle, souvent, on est capable de moins avoir d'impact sur l'environnement. Donc, l'agroécologie pourrait transformer non seulement la provenance de notre alimentation, mais aussi notre alimentation, pardon, mais aussi notre rapport à la nature.
Donc, c'est une façon de rendre les villes un petit peu plus autosuffisantes sur le plan alimentaire, mais il y a encore des défis, là.
Oui, c'est ça. On nous dit en conclusion, l'agriculture urbaine à elle seule ne va pas suffire à nourrir 10 milliards de personnes, mais on ne peut pas non plus se permettre de l'ignorer. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire, préserver les sols, enrayer la pollution, freiner le dérèglement climatique, protéger la biodiversité, notamment les pollinisateurs. Ça, c'est un autre sujet, mais vraiment important. Et on nous dit « Les limites de mon jardin sont l'horizon », écrivait Derek Jarman dans Modern Nature. « Chaque changement, aussi minime soit-il, élargit l'horizon de ce que nous croyons possible. »
Oh, ça finit en poésie.
Oui.
Merci. Non. Alors, c'est un article que vous avez trouvé dans The Guardian qui date du 9 novembre 2025. C'est quand même assez récent.
Et, si vous voulez trouver l'article original, le titre original, c'était « Could urban farming feed the world? »
Thank you very much. Ben, merci Isabelle. C'est là-dessus qu'on se dit au revoir. Puis on se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Bonne journée.
Semaine.
Les ressources actuelles ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux besoins des aînés. D'ici 2035, 111 000 personnes âgées de plus risquent de ne pas avoir les services à domicile ou un milieu de vie adapté pour elles. L'Alliance québécoise des milieux de vie pour aînés sonne l'alarme et appelle les décideurs à agir avant de se heurter à un mur. Il s'agit d'un net déséquilibre entre la hausse de la demande et l'offre du réseau public, dénonce l'Alliance, qui représente 86 % de l'hébergement aux aînés au Québec, autant dans les soins à domicile qu'en CHSLD, en résidence privée pour aînés ou en ressources intermédiaires. Merci d'être là. La chronique de Julien Caillouette s'en vient et une entrevue avec Christian Bégin.